Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Conférence sur Radio Certitude, c'est la diffusion de l'enregistrement d'une conférence.
Nous allons écouter à présent un thème sur la sanctification abordé par le pasteur Pierre Truchel.
Pour compléter un petit peu l'enseignement de cet après-midi et parler un petit peu du travail de Dieu en ce qui concerne la souffrance. Alors, parti comme c'est là, dans la louange, dans l'adoration, je me disais, mais est-ce que tu tombes juste? Vous voyez, parti comme ça, j'ai dit, je vais le couper le moral en parlant de la souffrance, mais je crois que c'est important. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous ne l'avez pas encore remarqué, vous allez le remarquer dans les semaines et les mois qui viennent. La souffrance vient sans demander la permission. Elle frappe à la porte, elle rentre parfois d'une façon inattendue. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul dira que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison à la gloire à venir. C'est déjà plus fort. Puis il achève et dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Ça veut dire que si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne régnerons pas avec lui. Et il est important pour votre vie chrétienne, comme pour la mienne, d'être au clair en ce qui concerne la souffrance, parce qu'il y a des moments où la prière semble ne pas être efficace. Il y a des moments où telle maladie, tel problème, telle difficulté est là comme quelque chose qui perdure, qui dure, et plus vous priez, pire c'est. Plus vous demandez, moins vous avez de réponses. Il y a les silences de Dieu, il y a les incompréhensions, il y a toutes sortes de choses. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des souffrances physiques, vous le savez, souffrances psychiques, des souffrances spirituel. Il y a toutes sortes de raisons, j'en ai donné cet après-midi, il y a toutes sortes de raisons. Il y a déjà, parce que nous sommes liés aux conditions de la nature humaine, l'homme est fait pour souffrir comme l'étincelle est faite pour voler, dira Job, c'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, la souffrance est dans le monde, c'est lié à la condition humaine. Vous avez remarqué que depuis que nos premiers parents ont mangé la pomme, eh bien nous avalons les pépins. Il y a donc, ça c'est une condition, c'est l'héritage de lié à la condition humaine. Il y a aussi, parfois tout simplement, nous souffrons à cause des inconséquences de notre propre conduite. Si j'ai une voiture qui marche au gasoil et que j'y mets de l'essence, elle va tomber en panne. Si je ne respecte pas les lois de l'organisme, les lois du corps, si je mange mal, si je ne prends pas soin de mon corps, c'est un petit peu ça que j'ai payé, moi. Si bien, il y a des rythmes physiologiques dans votre organisme, comme dans le mien, et tout en étant un super chrétien, super rempli du Saint-Esprit, ben vous risquez de prendre des coups. C'est comme un élastique, quand il est toujours tendu, à un moment donné, il y a des conséquences. Il y a des souffrances qui sont dues à nos inconséquences. Si je bois de l'alcool constamment, si je prends toutes sortes de produits, etc., j'ai pas tant d'insister, mon corps qui n'est pas fait pour va réagir négativement. Il y a également, je peux souffrir tout simplement à cause de mon péché, si d'une façon ou d'une autre j'ai transgressé les lois de Dieu et que je mène ma vie comme je l'entends. Dieu peut me permettre que je sois touché par une sanction dans mon corps. L'apôtre Paul dira que certains ont pris un jugement dans leur corps en prenant mal la Sainte Cène. mais on voit aussi que certains pêchent et se comportent comme un charme. Vous avez remarqué? Il y en a un, et ils font n'importe quoi, n'importe où. J'ai vu des gens, au moment de l'imposition des mains, au moment de l'onction d'huile, j'ai vu les pires mécréants être guéris instantanément, et j'ai vu des chrétiens engagés n'être pas touchés par Dieu. Apparemment, je dis bien apparemment. Il y a des réalités comme ça. Le mal n'est pas toujours sanctionné, et ma foi, et le péché n'est pas non plus toujours la cause du mal. Jésus dira, mais la tour de Siloé qui est tombée sur des juifs, eh bien, est-ce qu'ils ont péché plus que d'autres? Non, pas du tout. Vous avez des gens qui parfois n'ont pas péché, qui sont frappés. Le malheur atteint souvent le juste. C'est écrit, hein, le malheur atteint souvent le juste. Il y a également, on peut souffrir à cause d'autres personnes. S'il y en a un qui grille la priorité, et qui vous rentre dedans et qui vous laisse sur le carreau, c'est pas votre faute, c'est la sienne, mais vous payez bien. Et dans la vie, les fils d'alcooliques, le père qui boit, l'enfant qui trinque, sont des réalités. Vous avez des personnes qui ont des organismes fragiles, tout simplement parce que je connais des gens, je connais deux vieilles sœurs dans l'église, mais elles sont fragiles, on dirait que leur corps, c'est du papier à cigarette, tellement c'est fragile. Mais ça, c'est de père en fils. Il y a tout un héritage familial d'inconséquences des générations qui ont précédé. Les enfants d'alcooliques, les enfants de sidaïens, les enfants de parents syphilitiques sont tous des enfants qui n'ont rien fait et qui ont encaissé dans leur corps les conséquences des aberrations de leurs parents. Il y a aussi, on souffre parce que la souffrance, nous allons voir, vous rend adulte. Au malheur, le mépris, dit Job, c'est la devise des heureux. Quand vous ne souffrez pas, quand vous n'avez jamais souffert, alors quand vous voyez les autres souffrir, vous dites pas, ils n'ont pas la foi. Vous avez remarqué comme on a vite fait de donner ils n'ont pas la foi. Mais quand on passe par l'épreuve. Vous savez, quand vous dites la foi, le super punch, etc., et puis quand vous êtes touché dans votre corps, et que rien ne marche, et que rien ne bouge, alors vous commencez à comprendre les autres. Et je dirais qu'un homme ou une femme qui n'a pas souffert est un danger public, parce que vous devenez intolérant envers les autres, vous ne comprenez pas les autres, tandis que la souffrance vous rend humble, la souffrance vous rend compatissant, la souffrance vous rend sensible. C'est la même chose, je change de sujet, c'est la même chose que quelqu'un qui commande et qui n'a jamais obéi. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui commandent et qui n'ont jamais appris à obéir. Et ça, c'est les dangers les pires. Pourquoi? Parce qu'un homme ou une femme qui n'a pas appris à obéir d'abord et à qui vous confiez le commandement devient un despote invivable pour tout le monde. Et c'est pour cette raison que Dieu nous apprend dans la formation les futurs responsables. Il nous demande d'apprendre d'abord à obéir, de nous soumettre aux aînés, de nous soumettre aux conducteurs, parce que la soumission est une préparation pour pouvoir commander plus tard. Tu deviens un mauvais commandant si tu n'es pas d'abord un bon serviteur et obéissant. Ça fait partie également de la pédagogie de Dieu. Et puis également, quand vous souffrez parfois, bien des gens, s'ils ne souffraient pas, ils ne se seraient jamais convertis. Combien d'entre nous ici se sont convertis parce qu'il y a eu un coup dur dans leur vie et à ce moment-là, ils sont devenus réceptifs à l'Évangile? Levez un peu la main. Ben, vous voyez, hein, c'est très clair, on le voit. C'est une préparation, souvent la souffrance frappe, c'est Dieu qui permet pour nous ouvrir, pour nous rendre sensibles à l'appel de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nul n'y prend garde. Dans Job, il est écrit qu'il parle par des songes nocturnes, etc. Mais il parle aussi par la souffrance. Et quand on est là, sur la couche, quand ça va plus, quand on est bloqué, des factures à payer, etc., et qu'on n'a pas les moyens pour, eh bien, on commence à réfléchir. Et c'est là que Dieu peut nous parler. Et puis également, il y a également aussi pour nous les chrétiens, parfois, la souffrance peut frapper à la porte pour nous éviter de nous refroidir, pour nous obliger à chercher le Seigneur, pour éviter de devenir un rétrograde. Quand tout va bien, quand ça baigne dans l'huile, eh bien là, on se laisse aller. Et bien souvent, les chrétiens perdent leur premier amour parce qu'ils sont tellement bénis dans leur vie qu'ils oublient qu'ils sont bénis. Et de temps en temps, Dieu est obligé de mettre le sécateur. Et puis, il y a aussi ce moyen, parfois, que Dieu utilise ou permet pour nous rapprocher de lui. Et puis, il y a aussi, nous allons voir dans quelques instants, Dieu va se permettre de vous tester. Vous savez, quand vous allez chez un joaillier, quand on lui vend de l'or, etc., il le teste avant de l'utiliser. Tout matériau important, tout matériau cher est testé. Tous les produits utiles pour construire n'importe quoi de solide sont testés. Et Dieu va se permettre de vous tester inexorablement, ça vous attend, ça m'attend, ça fait partie de la vie. Il y a les tests de Dieu. Il nous est dit dans 2 Chroniques 32 que Dieu abandonna Ézéchias pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur. C'est clair, c'est net. Il y a aussi parfois la souffrance est permise dans votre vie parce que pour que Dieu puisse manifester sa gloire, les problèmes viennent parfois parce qu'à ce moment-là, quand humainement il n'y a plus rien à faire, c'est là que Dieu peut manifester sa gloire. Et puis il y a aussi, je l'ai dit cet après-midi, je le dis vite en passant, la souffrance existe parfois chez certains croyants qui sont appelés à souffrir plus que d'autres. Vous allez dire pourvu que ce soit pas moi, que ce soit le copain. Mais ça aussi, ça existe. Vous savez, souvent on se plaint, mais vous avez des chrétiens qui sont sur des chaises roulantes, qui ont des problèmes d'handicap physique incroyables, qui aiment Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui prient, ça ne bouge pas, ils traînent ça depuis des années. Alors soyez reconnaissants pour la grâce de Dieu qui est la vôtre, d'être en bonne santé. Et si vous avez des problèmes, ben considérez ceux qui ont des problèmes plus grands que vous et soyez reconnaissants. Il y a des chrétiens qui sont touchés dans leur corps d'une façon incroyable. Des handicaps à vie, des handicaps moteurs, de tout genre, qui dépendent des gens, qui dépendent même pour leur hygiène quotidienne, sont livrés un peu à la honte d'être obligés d'être aidés par d'autres. Et Dieu semble ne pas répondre. Vous avez des chrétiens dans le monde, beaucoup d'handicapés moteurs dans le monde, qui, malgré leur conversion, malgré leur amour pour Dieu, ne sont pas encore guéris aujourd'hui. Nous devons ne pas les oublier, nous devons bien réaliser que face à la souffrance, on ne peut pas tout expliquer. Il y a pourquoi un tel et pas l'autre, pourquoi l'autre et pas un tel, et puis pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi pas cela. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il vaut mieux dire à un moment donné, il y a une souveraineté de Dieu et qui est parfois là. Il y a bien sûr la faiblesse de l'Église, il y a le péché, il y a le manque d'exercice des dons de l'Esprit, il y a peut-être le manque d'engagement du peuple de Dieu, il y a la fragilité de la foi chrétienne, il y a le matérialisme dans le peuple de Dieu qui empêche le peuple de Dieu d'être engagé à fond dans la recherche du Seigneur. Il y a toutes ces choses qu'on pourrait peut-être donner comme explication pour expliquer l'Esprit de Dieu dans l'Église, mais nous savons, nous le croyons, nous prions, nous cherchons, nous croyons que les temps viennent où Dieu va de nouveau visiter son Église dans une effusion où on verra de nouveau les plus grands miracles se faire d'une façon forte comme il se fait actuellement dans certains endroits de la planète. Parfois aussi, nous souffrons parce que c'est une attaque du diable. M'arrivait régulièrement, chaque fois que je partais, je ne faisais pas attention, chaque fois que je partais en Afrique, 15 jours avant, je me retrouvais KO, par terre, j'avais jamais fait la loi, l'association, jusqu'au jour, je dis, mais c'est pas vrai, j'ai failli lier, chaque fois que je préparais un voyage en Afrique, et bien je liais dans la prière et c'était fini, c'était stoppé, alors que sinon, je tombais malade, c'était ma femme qui était, pendant que j'étais en Afrique, ma femme était raide au lit, etc. Alors ça, c'est des attaques du diable, vous pouvez avoir dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Afrique pour ça, hein. Ça vient là aussi, le diable, il est aussi en France, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il existe chez nous aussi. Et puis, il y a également la souffrance, eh bien, ça nous rapproche de Dieu. Quand vous ne savez plus, vous savez, je racontais, je crois ça à Jean-Michel, je sais pas si c'était à Grenoble, quand j'étais touché dans mon corps, j'avais jamais été malade, pratiquement, j'avais connu le médecin pendant 20 ans, j'ai pas eu visiter un médecin. J'avais pris de cachet, toujours à la dure, la guérison divine, le fond. Je me suis retrouvé à l'hôpital, les médecins ne comprenaient rien, j'étais le cas médical. du siècle, et il savait plus quoi faire. J'étais là, 2 heures du matin, on devait m'opérer, personne ne savait rien, je disais, je m'en sortirai pas, c'était, ça reprenait. Mais je disais que là, quand vous êtes là, tout seul, vous dépendez même plus des hommes parce qu'ils peuvent rien. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé une présence de Dieu, non pas parce que je l'ai senti, non pas parce que j'ai senti la grosse effusion. Simplement, c'était mon refuge. Dieu est là. Quand je suis sorti de l'hôpital, je crois que je vous l'ai dit, ou c'était hier, il y avait dans l'église, il y avait tout le culte qui était là, des centaines de personnes qui louaient le Seigneur. Et j'étais sur l'estrade, je les regardais tous, et j'étais en train de me dire, mais sur mon lit d'hôpital, j'étais plus conscient de la présence de Dieu que devant tout cet orchestre, tous les chrétiens qui chantaient et qui louaient et qui adoraient le Seigneur. Il y a des moments dans la souffrance, la présence de Dieu est 100 fois plus réelle que dans les moments de plus grande joie. Il y a des choses qu'on n'explique pas très clairement, mais j'aimerais maintenant aller plus loin. L'apôtre Jacques, dans Jacques 1, il est écrit, mes frères, c'est aussi parlé à mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Vous savez, il nous est dit du Seigneur Jésus qu'il a connu la souffrance. Savez-vous que la première personne qui a connu la souffrance sur la planète, c'est Dieu, qui fut affligé dans son cœur lors du premier péché de nos pères. Et dans Hébreux 2, il est écrit au verset 10, il convenait en effet que celui par qui et pour qui tout existe, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Hébreux 5, 8, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça paraît assez invraisemblable. Comment Jésus, le Fils de Dieu, a-t-il dû apprendre l'obéissance? Est-ce qu'il n'était pas parfait? Si. Il a été élevé à la perfection par les souffrances, par les choses qu'il a souffrantes. Est-ce qu'il n'était pas parfait? Si, dans son identité divine, Jésus était parfait, mais dans une identité humaine, il a été touché, il a fallu qu'il passe par l'école de la souffrance pour devenir parfaitement homme. Avant, en tant que fils de Dieu, il pouvait avoir de la pitié, comprendre. Maintenant, par le chemin de l'école de la souffrance, il a de la compassion. Et nous avons à la droite du Père un avocat, pas Jésus-Christ le fils de Dieu seulement, mais Jésus-Christ homme. Un homme qui a souffert comme vous, qui a souffert comme moi, qui a été touché en toutes choses. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses et qui peut comprendre ceux qui sont tentés ou ceux qui sont touchés. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et par l'expérience humaine de la souffrance, il peut nous comprendre, il peut compatir à nos faiblesses. Et ils peuvent s'identifier à nous comme nous pouvons nous identifier à lui. La prière, la Bible montre également que la prière nous aide à nous équiper, à régner dans la vie et à avoir des compétences, tandis que la souffrance nous aide à acquérir le caractère pour l'éternité. Et là, maintenant, je veux dire quelque chose d'incroyable. Tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, travail pour Dieu, évangéliser, construire des églises, faire la bonne œuvre de Dieu, tout le travail que vous allez faire est pour la terre. Vous ne l'emportez pas au ciel. Alors que la transformation de votre caractère est pour le ciel. Le travail est pour ce temps présent, il n'est pas éternel, mais le changement de votre vie est pour l'éternité. Ce que vous aurez fait est pour la terre et restera sur la terre, ne vous suivra pas dans l'éternité. Mais le résultat du travail de Dieu dans votre caractère, c'est ça qui vous suivra dans l'éternité. Et c'est par la souffrance que le travail de Dieu se fait bien souvent. Parce que le travail de la souffrance se fait également dans la personne de Jésus. C'est par les choses qu'il a souffertes qu'il a été élevé à la perfection. C'est extrêmement important. Je vais dire quelque chose maintenant pour aller plus loin. Nous sommes habitués, bons petits chrétiens, pentecôtistes, charismatiques, libérés, plein évangile, tout ce que vous voulez, nous sommes tellement habitués à la grâce. Je suis sauvé par grâce. Ma vie a été lavée par le sang de Jésus. J'ai été régénéré, je suis sauvé, alléluia, je reste dans le salut. Terminé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, vous êtes sauvés pour vos péchés passés. Mais vous n'êtes pas sauvés de vos péchés actuels. Je peux redire ça? Vous êtes sauvés pour vos péchés passés, mais vous n'êtes pas sauvés pour vos péchés actuels. Et ça, il faudrait se réveiller. Je vais plus loin maintenant. Il n'y a que dans la mesure où quand je pêche, que je mets ma vie en ordre, que je me repens et que je délaisse, que je suis de nouveau lavé et purifié. Mais être purifié de mes péchés passés n'est pas la garantie que je suis actuellement purifié de mes péchés présents. Je vais aller appuyer le démarreur un peu plus loin. Dans le ciel, il y aura des adultères pardonnés, il y aura des menteurs pardonnés, il y aura des voleurs pardonnés, il y aura des gens de toute mauvaise vie pardonnés. Mais ça ne suffit pas. Si ces gens-là pardonnés n'ont pas accepté d'être transformés pendant leur vie, ils n'iront pas au ciel. Dans le ciel, il n'y aura pas seulement des brigands pardonnés, mais il y aura des brigands qui auront été transformés. Parce que ma Bible, à moi, dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et que vous prenez, excusez-moi maintenant, je vais appuyer l'accélérateur un peu plus fort, quand vous prenez le nombre de chrétiens qui ne changent pas, qui sont indécrottablement les mêmes, qui regardent et toujours leur même caractère, qui n'évoluent pas, qui sont dans l'infantilisme évangélique à la fin de leur vie, ma Bible à moi dit que ces gens-là n'iront pas au ciel. Parce que Dieu ne va pas recommencer le même cirque que sur la terre. Et ça, il faut l'accepter. Il faut y réfléchir. Sans, il n'est pas seulement question d'être pardonné de mes péchés passés, il est question d'accepter le travail de transformation du Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie, pour l'avenir. Et si le brigand sur la croix a été sauvé, c'est parce que matériellement, il n'y a pas eu le temps de la transformation, mais son cœur était purifié par la foi. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, et moi, dans la marche chrétienne, le salut est un acquis du passé, dans lequel tu dois demeurer en marchant dans le chemin du salut. C'est un passé, mais c'est aussi une marche, un chemin, une voie d'aujourd'hui, mais c'est aussi, tu es sauvé en espérance. Tu es sauvé de tes péchés passés, mais tu demeures dans le salut si tu pratiques la justice, et tu es sauvé dans l'éternité si tu persévères jusqu'au bout pour être sauvé. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous devez comprendre cela. Il y a une sorte de théologie, qui dit, bon, je vis dans la grâce de Dieu, je suis mort avec Jésus, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Et le fruit, le meilleur des fruits dignes, le fruit visible, c'est l'acceptation du changement de notre vie. Et on doit voir une évolution du caractère. Pourquoi? Parce que la seule chose qui nous prépare à l'éternité, c'est notre caractère. Ce qui conditionnera notre place dans l'éternité, ce n'est pas le boulot que nous aurons fait pour Dieu, c'est ce que nous serons devenus en Dieu pendant la terre. C'est extrêmement important de comprendre. Tu auras la place là-haut que ta stature spirituelle aura atteinte ici-bas. Tu seras rejeté là-haut si ton rejet a commencé ici-bas. Vous devez comprendre que C'est dans la crainte, et que c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous invite à nous revêtir de Jésus-Christ, à nous dépouiller du vieil homme, mais également à nous revêtir. C'est notre part. Il y a le salut que Dieu nous offre, il y a la régénération par le Saint-Esprit, mais il y a la marche chrétienne de chaque jour où nous nous identifions, où nous saisissons toute la nature qui est en Jésus-Christ, nous nous dépouillons du vieil homme, et je vais aller plus loin, et où nous acceptons, jour après jour, de renoncer à nous-mêmes. Et c'est là que j'arrive à un phénomène, à un problème majeur dans le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent plus à renoncer à eux-mêmes. Et vous avez l'apparence de la piété. On chante, on loue, on fait beaucoup de choses, on parle en langue, on fait toutes sortes de choses. Et quand il s'agit de garder des enfants à la garderie, quand il s'agit de s'inscrire dans l'équipe de balayage d'une église, quand on cherche des moniteurs et des monitrices pour les colos, etc., il n'y avait personne. On se rend compte, toutes les œuvres chrétiennes sont en train de réaliser que l'embauche est difficile, que les gens n'aiment plus se sacrifier, ils n'aiment plus se consacrer, ils ne sont plus disponibles, ils veulent jouir, ils veulent se faire plaisir, excusez-moi. Et la vie chrétienne est devenue, le nec plus ultra d'une vie chrétienne réussie dans la mentalité aujourd'hui, c'est de jouir des choses de Dieu, jouir de l'esprit, jouir de l'atmosphère, jouir de la joie, jouir de la vie. En un mot, on mange, on mange, on mange, on mange, on devient gras, on devient replet. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et vous devez comprendre qu'il y a un défi terrible. C'est que, alors que nous pensons que plus nous allons être bénis, plus nous allons être heureux, plus Dieu va nous bénir, plus nous allons être heureux, ça c'est la mentalité du monde qui pense que plus il a, plus il va être heureux. Alors que l'évangile, la théologie de l'évangile est tout autre, le raisonnement est tout autre. L'évangile te dit pas plus tu vas recevoir et être béni, plus tu seras heureux, c'est pas vrai. Les gens les plus bénis, ce sont les plus enquiquinants souvent. Mais l'évangile nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et vous remarquerez dans une vie d'église que les chrétiens engagés, qui ont pris le style de vie de servir les autres, sont 100 fois plus heureux que les chrétiens qui se font toujours servir par les autres. C'est la loi du royaume. Or, on parle, c'est difficile aujourd'hui de trouver des chrétiens engagés. C'est difficile aujourd'hui de trouver des responsables. C'est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui payent de leur personne. Alors que tout le monde veut jouir, tout le monde veut profiter, tout le monde veut avoir, il n'y a qu'une minorité qui veut servir. Et c'est important que je fais un appel pour vos églises, un appel à ne pas chercher à jouir l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ne pas chercher à jouir des choses de la vie, non, mais chercher à servir Christ le Seigneur et votre prochain comme vous-même. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs, les églises sont fragiles. Les églises sont faibles. Vous savez, quand je me suis converti, arrivé du monde, vivais en communauté avec des amis africains, on m'appelait le nègre blanc, j'étais initié à toutes les danses typiques, là. Et moi, servir, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, pour faire plaisir à ma femme, je venais de me marier, mon beau-frère avait une colonie de vacances, colonie de vacances, je pensais que c'était un peu petit truc. Et puis je me suis retrouvé à cette époque-là, les colos, on creusait les trous des WC des enfants, on faisait le monitariat, tous les cours, les trucs, les machins, programmes, les levait, on les douchait, on les lavait, on faisait tout, on était corvéable et taillable à merci du matin au soir et du soir au matin. En bout de 3 jours, j'ai su ce que c'était servir. Chaos. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie vie chrétienne, c'était le service. Il n'y en avait pas d'autre. J'étais surveillant, Dieu m'a conduit, je suis devenu surveillant général d'un lycée, interne, ma femme était prof, avions 2 salaires et très très vite l'appel de Dieu a commencé. On a dit, l'appel de Dieu, on a dit, bon, on va avoir de l'argent, on va mettre un peu d'argent de côté, parce qu'on avait vu, ma femme était fille de pasteur, elle a dit, les pasteurs, ils sont toujours fauchés. Alors, elle a dit, on va mettre un peu d'argent de côté, mais alors tout de suite, l'école de Dieu a commencé, hein. Dès qu'on mettait un peu d'argent de côté, boum, il fallait ici, il fallait là, il fallait donner ici, il fallait donner là. Et depuis le début de notre mariage, pourtant on avait deux salaires, on n'arrivait pas à mettre un sou de côté. Et ça a été l'école de Dieu. Et puis quand on a fait moniteur de colo, eh bien on a donné notre salaire. En même temps qu'on travaillait, on donnait notre salaire à la colo. On a grandi comme ça, grandi comme ça. Si ça a été l'œuvre missionnaire, je n'ai pas le temps d'insister. Je peux vous dire une chose, c'est que je remercie le Seigneur de cette école-là, où très vite, on a réalisé que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes, qu'on ne s'appartenait plus. C'était fini, une croix, c'était fini, Pierre Truchel, c'était KO, zéro, fini, terminé. La seule chose qui comptait, la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, excusez-moi, mais Dieu va se permettre de travailler ça. Vous savez, quand on écoute comme ça, ça fait bien, hein? Mais quand vous y passez, c'est autre chose, hein? Et alors, eh bien, Dieu, excusez-moi, mais Dieu va se permettre de vous toucher. Je voudrais dire quelque chose. Il y a le test. J'ai parlé tout à l'heure de test. Dans Job, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tous les matins ?» Il y a un texte, un verbe originel qui dit « Que tu le visites chaque matin pour que tu l'éprouves dans tous les instants. » Savez-vous que Dieu vous éprouve sans même que vous le rendez compte tous les jours ? Savez-vous que votre avenir pour le service de Dieu, ce n'est pas les grandes choses que vous décidez pour Dieu ? C'est les petits détails que vous décidez tout simplement, les petits choix que vous faites qui conditionnent votre avenir pour le service de Dieu. Ce n'est pas les grands trucs. La réalité de votre cœur va se révéler dans les petites choses. Les autres vont pouvoir faire n'importe quoi. Ils n'ont pas envie de faire, ils ne font pas. Ils n'ont pas envie de venir, ils ne vont pas. Ils n'ont pas envie d'être à la réunion, ils ne le font pas, ils ne bougent pas, ils s'en fichent. Petites choses. Mais vous, le jour où vous n'êtes pas à la réunion de prière, vous dites, mais votre cœur va battre. Le jour où il y a une équipe d'évangélisation, vous n'y êtes pas, votre cœur va battre. L'autre, il s'en fiche, il a sa copine, il a son truc, il a sa famille, etc. Je peux pas, j'étais invité, ceci, j'étais invité, cela. Il fait ses choix, petits choix, grandes conséquences. Dieu se permet de tester ta vie chaque jour. C'est pas une fois de temps en temps, Dieu qui vient, qui teste, c'est tous les jours. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Tout simplement, je vais vous dire, Dieu va se permettre de vous évaluer. Dieu se permet de vous évaluer. Il n'y a rien à faire, et vous retrouvez ça. Regardez le cas de Job, hein? Satan qui dit à Dieu, tu vois, Dieu qui dit à Satan, tu vois, Job, hein, il n'y en a pas comme eux. Oh, l'autre, il dit, ouais, touche un peu à sa peau. C'est facile pour lui de te servir. Tu l'as béni, tu l'as protégé, tu l'as gardé, tu l'as environné. C'est merveilleux, le chrétien, alléluia, c'est bien. Mais touche un peu à sa peau. Touche-le, laisse-moi un petit peu gratter derrière. Tu vas voir, il va te renier en face. Et puis, ça lui tombe dessus. Sa famille est touchée, ses enfants sont touchés, ses biens sont touchés. Tout est touché, le gars, il comprend rien. Mais il sait qu'il est éprouvé. Il sent qu'il est éprouvé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, très simplement, je sais que mon Rédempteur, après avoir été éprouvé, je le verrai. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, il y a des moments où tu vas être éprouvé. Et comme la façon dont tu vas réagir va conditionner tout le reste de ta vie. Tu peux être léger, tu peux lever le poing contre Dieu, tu peux envoyer promener, tu peux jouer l'enfant gâté, tu peux changer d'église, tu peux râler après les conducteurs, tu peux tout faire. La mousse monte. Mais tu ne pourras jamais plus tard reprocher à Dieu parce qu'il t'a éprouvé et tu as été trouvé léger. Et chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, nous serons éprouvés. Regardez, je prends... Regardez, à un moment donné, Dieu dit aux compagnons de Job, parce que vous n'avez pas parlé bien de moi comme mon serviteur Job, eh ben, vous allez demander à Job de prier pour vous. Job, tout en étant touché, avait dit, il était sûr, il ne dépendait pas des bénédictions que Dieu lui donnait, il dépendait de Dieu, il dit, il me tuerait, j'espérais encore en lui. Ça, c'est la vraie foi. Il n'était pas dépendant de son bien-être ou sa foi, ou son, c'est-à-dire son engagement n'était pas dépendant des événements. Son engagement était dépendant de sa foi dans la personne de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Dans votre vie, dans la marche, dans nos églises, nous avons besoin d'hommes, nous avons besoin de femmes qui ne sont pas comme des yo-yo. Aujourd'hui, ça va, ils sont en haut. Demain, ça va pas, ils sont en bas. Les chrétiens yo-yo. Nous avons besoin de gens solides. Des chrétiens qui craquent, il n'y a pas besoin de chercher, il y en a partout. Mais nous avons besoin de chrétiens qui sont solides. Des chrétiens qui sont fermes et inébranlables dans la foi. Qui, face aux jeunes, face aux nouveaux croyants, sont solides, ne pleurent pas toujours. Nous passons en tant que pasteurs souvent plus de temps avec les aînés dans la foi qu'avec les nouveaux. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Il y a des forces qui sont dépensées inutilement. Je ne parle pas pour vous, vous êtes les meilleurs. Mais c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. Et je voudrais vraiment vous encourager à, ainsi mes frères, a dit Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'endurance. Mais il faut, c'est écrit, il faut, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Là, il y a, vous avez entendu parler, dira Jacques, de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Dans les ennuis qui vous arrivent ou qui m'arrivent, ça peut être des ennuis physiques, mais ça peut être des envies d'événements, ça peut être des difficultés de n'importe quel domaine de ma vie. Quelles sont les deux grandes causes que je suis appelé à voir? J'en ai parlé cet après-midi. La première, c'est que les ennuis peuvent m'arriver parce que Dieu est en train de me discipliner. Il y en a qui pensent que les chrétiens ne sont jamais disciplinés. La grâce de Dieu, c'est le Alléluia dans mon hamac et j'attends que la mangue tombe tranquille. Formidable Seigneur, qu'est-ce que t'es bon Seigneur, etc. Non. Que dira l'apôtre Paul? Et vous n'avez pas oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et j'aimerais dire quelque chose. Il faut vous enlever de la tête cette théologie à l'eau de rose qu'on essaye de nous faire avaler, qu'on essaye de faire avaler aux chrétiens pour qu'ils deviennent inconséquents et irréfléchis. Je vais vous dire que Dieu est capable de vous faire mourir physiquement si vous êtes dans le péché. Et vous aurez beau pleurer, jouer l'enfant gâté, vous mourrez, vous claquerez. Et vous aurez beau avoir les meilleurs prédicateurs, les meilleurs consolateurs fâcheux ou bienheureux, les meilleurs gars qui vous endormiront par des prophéties, vous laisserez votre peau et on vous enterrera. Et ce n'est pas eux qui vous payeront l'enterrement. Prendre un exemple. Vous avez Moïse. Moïse a une vision de Dieu, ou plutôt il voit le buisson ardent. Et il voit dans le buisson ardent, il entend la voix de Dieu, et Dieu l'envoie. Va en Égypte libérer mon peuple. Écoutez bien ça. Moïse discute parce qu'il a perdu sa superbe en 40 années dans le désert, en voisin un autre, moi je ne peux pas parler, je bégaye, je bafouille, hein, etc., etc. Bon, finalement, Dieu se met en colère, et il part. Et la Bible dit qu'envoyé par Dieu, en cours de route, Dieu l'attaque de nuit et veut le faire mourir. Est-ce que vous réalisez, vous avez là un bonhomme qui va devenir un des plus grands hommes de l'histoire, envoyé par Dieu, qui répond à l'appel de Dieu et qui, un soir, au bivouac, va mourir. Pourquoi? On aurait pu dire, mais Dieu aurait pu laisser faire sa femme, Séphora, refuser la circoncision pour son enfant. Et Moïse, qui devait éduquer toute une nation, était incapable de se faire obéir à la maison. Ça existe aussi dans les foyers chrétiens. Oh, les maris, les chefs de foyer. Ça existe. Et moi, je crois qu'il y a des malédictions dans certaines familles chrétiennes parce que le père ou le mari n'est pas foutu de porter les pantalons. Parce qu'il y a une responsabilité de l'autorité que Dieu a donnée. Eh bien, Moïse est en train de mourir et rien ne va arrêter. Et Dieu, pourtant qu'il envoie, il y a un appel de Dieu sur la vie de cet homme, Dieu va le faire mourir. Et c'est sa femme, au dernier moment, qui capitule. C'est elle qui fait la circoncision, qui jette le prépuce de l'enfant aux pieds de Moïse. Voyez la spiritualité de cette femme. Et dit, tu es pour moi un époux de sang. Mais elle l'a fait et Dieu laissa Moïse. Sinon, cette nuit-là, Moïse serait mort. Et je voudrais vous dire que dans certaines situations, vous aurez beau pleurer, on aura beau vous verser une tonne d'huile sur le crâne pour l'onction d'huile, vous mourrez. Vous mourrez. Vous devez comprendre. Comment je peux expliquer ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de théologie à l'eau de rose? Parce qu'on a fait de Dieu, Dieu est esprit. Et si vous comprenez la personnalité de Dieu, en Dieu, il n'y a pas une poussière d'ombre qui peut rentrer là-dedans. Pas une poussière de ténèbres. Pas une poussière de compromis. Dieu, en Dieu, c'est du 100% vrai. C'est du 100% pur. C'est du 100% même chose. Ce qui veut dire que, avec Dieu, on ne pourrait jamais fléchir Dieu par une larme au détriment de sa justice. Et si vous pensez que Dieu, vous pouvez faire un compromis en disant, Dieu, Seigneur, laisse-moi passer, tu vois comme je... Dieu ne laissera pas passer. Parce que si Dieu laisse passer, il n'est plus Dieu. Et je vais dire quelque chose de tragique maintenant. Si vous vivez dans le péché, et que rien de, et qu'aucun problème ne vous arrive, alors là, je vous plains, c'est qu'il y a de fortes chances que vous êtes en train d'être rejeté par Dieu. Je peux répéter ça? Si vous êtes un chrétien qui vit dans le péché, ou qui a un péché, ou une défaillance volontaire maintenue quelque part, et s'il ne vous arrive pas de problème, c'est qu'il y a de fortes chances que déjà Dieu a déjà commencé à vous rejeter. Parce que sinon, il ne laisse pas passer. Comme un père châtie son fils, Dieu vous châtiera parce qu'il ne veut pas que vous perdiez. Et les chrétiens qui ne sont plus touchés par la discipline de Dieu, peuvent déjà être des chrétiens qui commencent à être lâchés par Dieu, qui les laisse maintenant filer. C'est dire quelque chose encore. Alors on peut dire, oui, la grâce de Dieu. Non, c'est pas la grâce de Dieu, c'est la perdition sur laquelle tu es en route. J'ai dit quelque chose l'autre jour. Savez-vous que quand Jésus a parlé de l'enfer, c'est pas aux païens. Jésus n'a pas utilisé l'enfer comme un bâton pour faire peur aux païens, pour qu'ils se convertissent. Pas vrai du tout. Les enseignements que Jésus a donnés dans les évangiles, c'est à des disciples. Et il leur a dit, faites attention, ne craignez pas celui qui fait simplement mourir le corps, ça c'est le diable, c'est les hommes, mais craignez celui qui peut faire mourir le corps et envoyer l'âme dans la gêne, c'est-à-dire Dieu. Et Jésus a très clairement montré, que pour vous, que pour moi, pour le meilleur de ses disciples, il fallait qu'il fasse attention, parce qu'il pouvait bien commencer et mal terminer. Et le plus tragique, c'est qu'il pouvait mal terminer sans même s'en rendre compte. Je n'ai pas le temps d'insister, mais je voudrais ce soir vous expliquer que parfois Dieu est obligé d'utiliser la souffrance pour nous ramener. Coincé par la télé, plus de vie de prière, parce que dès qu'on rentre, la fatigue de la journée, on met le poste, c'est devenu notre relax. Incapable de s'accrocher de Dieu, incapable de jeûner, incapable de prendre du temps, de priver de la nourriture, de chercher, on est coincé. Alors qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Eh bien, il peut se permettre qu'il vous bloque sur un lit d'hôpital, ou qu'il vous bloque sur un lit de maladie, et par la souffrance, vous n'avez plus envie de manger là. Par la fièvre, par toutes sortes de choses, vous êtes KO, vous êtes cassé, et vous rattrapez par la force le jeûne que vous n'avez pas fait volontairement. C'est extrêmement important de comprendre que toutes ces choses... Je vais prendre un autre exemple encore. Prenez Abraham. Abraham, le père des croyants, Dieu lui donne des promesses, et puis voilà, à un moment donné, il y a de la disette, et il file en Égypte, et vous savez que le roi d'Égypte, chez les Philistins, veut prendre sa femme, il dit à sa femme, tu dis que tu es ma sœur, hein, c'est un petit combinard aussi. Et puis finalement, bon, mais à un moment donné, Dieu va aller jusqu'au bout, et à un moment donné, il entend la voix de Dieu, Abraham, alléluia Seigneur, me voici, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais vous dites, mais Dieu, il est bouché ou quoi? Pourquoi il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il n'a qu'à dire, donne-moi Isaac, un point, c'est tout. Pourquoi il a fait comme ça? Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et seulement Isaac même. C'est simple. Parce que le cœur d'Abraham était aussi tordu que le vôtre et le mien. Et quand Abraham a entendu son truc sémitique, vous savez, le petit gars hein, qui fait son petit commerce avec Dieu, hein, eh bien, quand il entend Abraham, oui Seigneur, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Alors là, donne-moi ton fils, ça c'est autre chose. Mais Seigneur, et vous avez tout le côté discutailleur d'Abraham qui sort. Le côté discutailleur d'Abraham. Mais Seigneur, mais j'ai deux fils. Ismaël, et il a insisté sur Ismaël, là. Alors Dieu, il dit, vous savez ce que Dieu, il connaît quand on fait les, hein, quand on a des oreilles et qu'on fait semblant de ne pas entendre. Rappelez-vous la commission que vous deviez faire pour votre mère et que vous avez fait comme si vous étiez frappé de surdité totale. Abraham, oui Seigneur, donne-moi ton fils. Aïe, mais Seigneur, j'ai deux fils. Celui que tu aimes. Aïe, alors là, le tour d'Abraham à l'intérieur, c'est comme une vis. Comment, mais j'aime aussi Ismaël. Ton unique, parce que dans le cœur, c'était le fils de la promesse, et dans le cœur d'Abraham, c'était vraiment l'unique. C'était toute sa vie là-dedans. C'était le résultat d'années de foi. Dieu a dit, Pierre, Jacques, Ursuline, mais oui Seigneur, et puis tu as envoyé, tu as fait la sourde oreille, et à un moment donné, Isaac, tu vas me l'offrir sur le moment Rujat. Et je vais vous dire quelque chose, dans la notion de la souffrance, Dieu redemandera toujours ce qu'il nous a donné. Pour que toujours nous perdions notre fichu état d'esprit de propriétaire. Dieu va te redemander ton ministère, et Dieu me redemande mon ministère périodiquement. Dieu va te redemander l'appel, il va te redemander certaines choses, il va te redemander tes enfants, il va te redemander ce qu'il t'a donné en réalité. Et je veux dire, ta spiritualité va grandir dans la mesure où périodiquement, quand ça vient, tu as la capacité de redonner à Dieu ce qu'il va te redonner comme par une sorte de résurrection. Mais ça fait mal. Et c'est le grand problème. Mais non, c'est mon ministère, c'est mes enfants, c'est mon travail, c'est mon église, c'est mon appel. Mon. Abraham, va, prends Isaac et offre-le-moi en sacrifice. Sur le mont Morija. Abraham avait besoin d'être libéré de lui-même, besoin d'être libéré même du don de Dieu. Et dans votre vie comme dans la mienne, il faut comprendre que parfois nous passons par des souffrances qui ont dans la pédagogie de Dieu le but de nous libérer de ce que nous avons reçu de Dieu et à quoi nous sommes le plus fermement attachés, parce que c'est dans ces choses-là que nous sommes les plus sincères. C'est mon appel que Dieu m'a donné un jour. Eh bien, c'est celui-là, j'y tiens, c'est le mien, c'est celui de l'amour de Dieu, c'est mon appel. Eh bien, il va me le redonner. Et ça explique les temps de confusion, ça explique les moments de solitude, ça explique les échecs que tu peux rencontrer dans ta vie, dans ton service. Parfois, Dieu va te redemander tes enfants qui vont te trahir, qui vont te lâcher. Et c'est dans la mesure où tu as la capacité de toujours de nouveau les redonner à Dieu qu'il pourra te les redonner dans une puissance de résurrection. Alors, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Psaume 139, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous connaissez ce psaume, il est important. Ce que Dieu révèle déterminera la façon dans laquelle vous devez vous comporter. Et j'aimerais dire maintenant deux choses. Où les problèmes que vous rencontrez doivent avoir pour résultat votre repentance dans le cadre de la discipline. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Mais si votre problème n'est pas un problème de discipline ou de sanction de la part de Dieu, mais que c'est une épreuve au travers de laquelle vous êtes testé, alors il n'y a pas de repentance, il n'y a pas à prier pour une repentance là. Là, il y a à apprendre, tout simplement, je souligne, à endurer. À endurer. À endurer, à serrer les dents jusqu'à ce que ça passe. Et c'est parfois long à passer. Je répète, ce que Dieu révèle déterminera la façon par laquelle nous devons nous comporter. Notre attitude face au châtiment doit être à la repentance. Notre attitude face à l'épreuve doit être d'endurer. Mais si nous persistons à endurer alors que nous devrions nous repentir, nous sommes coupables d'entêtement et d'un manque de sensibilité envers lui. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Et recommandez, et je vais vous dire quelque chose, l'épreuve est due aussi à une croissance dans laquelle Dieu va vous faire pénétrer. Il y a la différence entre la confiance, qui est une attitude, et la foi, qui est une action. Je vais prendre un exemple. Si demain, j'ai la grâce d'un héritage de 100 millions, eh bien, je prends un acte de foi, je vais voir le banquier et je dis, voilà, j'ai 100 millions à placer. Ça, c'est un acte de foi dans la banque dans laquelle je vais le trouver. Mais une fois que j'ai déposé mon argent, je fais confiance au banquier, ça, c'est la confiance. Je ne suis pas constamment, tous les deux jours, en train de téléphoner, ça va, qu'est-ce que vous faites avec mon argent, etc. Hein? J'ai placé, j'ai laissé, j'ai confiance. J'ai eu un acte de foi pour déposer mon argent, mais maintenant, j'ai une attitude de confiance pour l'argent qui est déposé. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Tu as un acte de foi où tu remets tel ou tel problème à Dieu, mais ensuite, dans ta vie chrétienne, tu dois grandir dans un trait de caractère qui est la confiance. Et Dieu va permettre l'épreuve de ta foi, mais aussi l'épreuve de ta vie chrétienne, pour qu'à un moment donné, des simples actes de foi deviennent un trait de caractère qui est la confiance ferme et inébranlable dans les bons et dans les mauvais jours en un Dieu vivant dont souvent tu es aux antipodes de sa façon de voir, aux antipodes de sa façon de réagir. Et ce n'est que par l'épreuve, par la persistance, par la pédagogie des moments difficiles que progressivement, au travers de ta vie, va s'installer la confiance ferme, paisible, en ce Dieu vivant dans lequel tu te confieras tous les jours de la vie. Vous savez, Job disait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous rendez compte la confiance de ce bonhomme-là? Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit comme nous. Vous rendez compte? Souvenez-vous que le plus important aux yeux de Dieu n'est pas ce que nous accomplissons, mais d'abord ce que nous sommes, notre caractère. Alors, je voudrais maintenant aller bien sûr bien plus loin que tout ça. Quand Dieu a demandé à Salomon de construire le temple à Jérusalem, vous avez remarqué une chose, un détail intéressant, c'est qu'il leur a interdit de tailler la pierre à Jérusalem même. C'est dans la carrière que les pierres devaient être taillées. Ensuite, on amenait les pierres taillées à Jérusalem et ensuite on les emboîtait sans bruit. la taille des pierres ne se faisait pas à l'endroit où le temple était construit, la taille des pierres se faisait dans la carrière, mais pas à Jérusalem. Et là, vous avez une leçon extrêmement importante. Votre caractère, mon caractère, Dieu ne va pas le changer là-haut. Vous ne serez plus transformés dans l'éternité, parce que dans l'éternité, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus la sœur Clou, le frère Marteau et le frère Si. C'est fini, ça. Il n'y aura plus les contrariétés, il n'y aura plus le diable, il n'y aura plus le taraudage des démons, il n'y aura plus les situations de la vie, il n'y aura plus la malédiction. Vous ne pourrez plus être transformés. C'est maintenant, pendant que vous êtes sur la terre avec toutes les contrariétés, que Dieu va utiliser les carrières de ce monde pour transformer votre caractère. Mais vous devez savoir, il n'y a pas de purgatoire. C'est pendant que vous êtes sur la terre que vous préparez votre éternité et que le changement de votre caractère, la croissance de la stature de Jésus en vous, la sanctification, c'est-à-dire la mise à part de tout votre être pour l'éternité, c'est pendant cette terre. Une fois que vous êtes mort, vous êtes fini. Dans l'éternité, vous aurez la fonction de la stature de caractère que vous aurez atteint sur la terre. Vous aurez raté votre caractère, vous aurez raté votre éternité. Vous aurez des faiblesses de caractère, vous n'aurez pas la place que vous aurez pensé avoir au ciel. Dans le ciel, vous aurez la fonction du résultat de votre caractère. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Alors, la Jérusalem céleste, c'est ça. C'est Dieu nous taille, les uns et les autres, comme des pierres vivantes, pour nous emboîter au moment de notre résurrection, ou dans l'au-delà, pour nous emboîter les uns aux autres dans la Jérusalem céleste. Et là, il n'y a plus de travail. Il n'y aura plus de coups de marteau, plus de coups de scie, il n'y aura plus d'écarissage. Vous êtes prêts ou vous avez tout raté. Et je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Et ce qui compte pour Dieu, c'est le caractère qu'il aura forgé, qui sera pour l'au-delà, pour le ciel, et non pas le travail que vous aurez fait sur la terre et qui ne correspondra pas au caractère que vous avez. Je m'explique. Votre caractère va, la foi sans les œuvres est morte, votre caractère va engendrer des œuvres. Mais ce sera que l'expression de ce que vous êtes réellement. Mais un chrétien qui fait du boulot, mais qui à l'intérieur de lui est tordu, est un hypocrite, et son hypocrisie l'entraînera en enfer. Pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui l'a dit. Les hypocrites seront jetés dans les temps de feu. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, Jésus prend une parabole et il parle de ce roi qui a invité tant de gens à la noce. Et puis les gens ne viennent pas, et puis finalement il les envoie le long des rues, vous connaissez le truc. Et puis la salle des noces est pleine. Et puis le maître rentre, parce qu'il se permettra de rentrer quand même au ciel, hein. Et qu'est-ce qu'il voit? Sur tous ceux qui sont là-dedans, il y en a un qui n'avait pas remis des habits de noces. Mais il dit, mais, comment ça se fait? Comment as-tu pu penser? Comment as-tu pu croire que tu peux rentrer là-dedans sans avoir mis des vêtements de noces? Ça voulait dire que ce gars-là avait littéralement méprisé. Parce qu'il faut comprendre qu'en Orient, on avertissait quelques semaines auparavant de la date du mariage, et puis les gens se préparaient. Et le jour du mariage, les gens mettaient leur repas de fête, leurs vêtements de fête, et puis ils venaient à la noce. Ce gars-là a été appelé, ce gars-là a été invité, c'était gratuit. Mais quand il est rentré dans le festin, dans le lieu du festin, il n'avait pas de vêtements de noce. Et vous savez ce que dit le maître? Jetez-le dehors. Dans les ténèbres du dehors, ça c'est l'enfer. C'est un gars qui était dans la salle des noces, c'est un gars qui avait entendu l'appel de Dieu, c'est un gars qui est venu, excusez-moi, mais qui n'a pas changé de vêtements. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et je voudrais dire cette chose importante, que souvent les chrétiens maintenant, où nous présentent l'évangile à l'eau de rose, mon frère, ma sœur, si tu ne changes pas, si tu n'aides pas Dieu avec l'aide de Dieu, changer ton caractère, tu vas au plus cruel
désillusion. Parce que sans, là-haut, dans le ciel, n'entreront pas des gens qui auront refusé la sanctification. C'est normal. Et vous réalisez, c'est à cause du péché que tout le monde en trinque pendant des siècles et des siècles. Et vous croyez que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre et recommencer le même problème? Il serait fou, Dieu. C'est pour cette raison que rien de souillé, rien d'impur ne pourra entrer dans le ciel. Donc il faut que tu changes, il faut que je change. Il ne faut pas que tu dises le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus t'a lavé de ton passé, mais l'Esprit de Dieu doit te changer de ton caractère présent. Et si tu ne changes pas, tu n'iras pas. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est extrêmement important de comprendre le sérieux de la vie chrétienne. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté. Alors je voudrais quand même aller un petit peu plus loin encore. Les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Je partageais ça un petit peu à la pastorale. Vous savez, j'étais sur mon lit d'hôpital à 2h du matin et 6h du matin, on devait m'opérer. Je ne savais pas comment ça allait m'en sortir là-dedans. J'étais là dans le terreau et puis j'étais là, je disais, mais comment ça se fait? Alors tout à coup, Dieu m'a parlé. Vous savez ça? Moi, il ne me parle pas souvent. Enfin, je crois que c'était Dieu. Et je vois la parabole du Samaritain. Vous savez, un homme descend de Jérusalem à Jéricho, attaqué par des brigands, il le laisse à demi-mort. Et voilà qu'un pharisien passe, il passe outre, un sacrificateur passe outre, un lévite passe outre. On fait le petit tour au côté, pas le temps. Et puis, un samaritain qui, lui, est ému de compassion, s'arrête. Et je me dis, mais comment ça se fait que Dieu me fait penser à cette parabole? Et tout à coup, cette prise de conscience que Dieu m'a donnée. Tu sais quelle était la différence entre le sacrificateur, le lévite, et le samaritain? Ben, il dit non, c'était un brave type, moi c'était ma logique, c'était un brave type, et plus que ça. Écoutez bien ça, le Samaritain, ça c'est à 2h du matin, vous savez, moi j'ai de ces horaires avec Dieu, à 2h du matin, Dieu me dit, tu sais la grande différence, c'est que le sacrificateur avait un ministère, le lévite avait un ministère, le Samaritain lui n'avait pas de ministère, il était libre. Tu peux redire ça? Nous sommes tellement pris par les choses de Dieu que nous n'avons plus la capacité d'être humains. Tu peux redire ça? Nous sommes pris par les choses de Dieu que nous n'avons plus la capacité d'être humains. Et c'est à cause de ça que Jésus a été brisé par la souffrance. Parce qu'il fallait qu'il devienne humain. Jésus était divin, mais il fallait qu'il devienne humain. Et la seule façon de devenir humain a été la souffrance. Il a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffert. Et mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas faire de toi un chrétien hypocrite, super instruit, super spirit, super spi, mais capable de mettre la main à la poche, capable de ramasser le blessé du chemin. Nous sommes devenus tellement transparents que nous ne voyons plus les autres et que nous nous rentrons dedans sans même nous en rendre compte. Alors qu'en réalité, nous devons redécouvrir cette humanité qui sait servir notre prochain dans les choses élémentaires de la vie. Les services sociaux dans nos églises sont souvent lamentables. Les visites des personnes âgées, les soins médicaux à domicile, l'aide à domicile, la nourriture, les marginaux, les petits déjeuners, tous les repas, des trucs comme ça. Le soin, les visites des gens, c'est devenu de plus en plus un fardeau pour beaucoup de chrétiens. Or, la vraie foi, c'est servir Dieu, la veuve et l'orphelin. Les services sociaux sont la marque une réelle spiritualité. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Et si tu n'aimes pas ton frère, c'est un mensonge que de dire que tu aimes Dieu. Parce que la vraie relation avec Dieu fait de toi un samaritain qui s'occupera de ton frère. Et quand je vois des jeunes ou de moins jeunes désœuvrés,
qui attendent un appel de Dieu qui viendra jamais, parce qu'il est déjà là, seulement ils se sont bouchés les oreilles, ils veulent faire des trucs qui leur plaisent, mais ils ne veulent pas faire des trucs, il faut payer le prix du renoncement. Eh bien, je vais vous dire, il faut revenir aux choses de la Bible, il faut revenir à la piété de nos pères, payer le prix du service de notre prochain. C'est important. Alors, il faut savoir que Dieu frappe, te parle tantôt d'une manière, et je vais maintenant aller dans ce que j'aime beaucoup, et je vous le laisse sur le, je vous laisse un peu comme une image de conclusion là. Enfin, c'est ceci, lire ça. Pourquoi est-ce que il vous arrive peut-être tel ou tel père, ou peut-être pourquoi vous arrivera-t-il? C'est pas une prophétie, ayez pas peur. C'est une déduction logique de la croissance chrétienne. Vous savez, vous connaissez l'huître. Hein? L'huître, un petit grain de sable, bah, ça lui fait mal. Hop, elle sécrète un peu de nacre, enveloppe le petit grain de sable de nacre. Ça y est, elle se sent bien. C'est fini, mais le nacre progressivement durcit. Boum, de nouveau, elle a mal. Hop, de nouveau, un coup de sucre de nacre. Elle enveloppe de nouveau le petit grain de sable. De nouveau, la gélatine, hop, elle est de nouveau bien. De nouveau, la gélatine durcit, paf, de nouveau un coup de sucre de nacre, etc., la gélatine. Et c'est ainsi que, de souffrance en souffrance, la perle grandit. La souffrance a été le moyen de produire les perles que les maris bien attentionnés offrent à leurs épouses. Maintenant, je vais aller plus loin. Maintenant, je vais aller plus loin. Est-ce que vous avez vu un papillon? Pas un poussin. Quand le poussin est dans l'œuf, quand il va sortir de l'œuf, il tape avec son bec la coquille et il sort la tête, les ailes, il fractionne et il frappe et il va faire des efforts pour entrer dans la vie et il sort. Si par malheur vous l'aidez et que vous cassez la coquille à sa place, vous en faites un poussin bâtard. Parce que l'effort qu'il doit faire pour entrer dans la vie est calculé par le Créateur pour fortifier ses membres et ses ailes. C'est la même chose pour le papillon. Le papillon, c'est quand il est dans son cocon, à un moment donné, quand c'est l'heure, la chenille est devenue papillon, eh bien, il va casser le coquillon, il va casser le cocon, il va faire tous ses efforts pour la tête, les membranes, les ailes, etc. Et les efforts qu'il sont destinés à fortifier ses membres, ses membranes, ses ailes. Et à un moment donné, il casse le cocon, il sort. Et il peut s'envoler. Si par malheur, vous cassez le cocon à sa place, vous êtes une libellule, vous faites un papillon bâtard, et ses membranes se fortifient. Quelques heures après, il est mangé, il est ramassé, il est mort. En un mot, votre amour sentimental humain en a fait un bâtard. Et je vais dire quelque chose maintenant. Nous ne devons pas confondre aider notre prochain et l'empêcher de faire ses propres expériences et ses propres efforts. Et je crois que dans nos églises, nous avons des gens qui veulent qu'on leur fasse tout, qu'on leur sert tout, et on en a fait des chrétiens bâtards. L'amour sentimental, l'amour humaniste, n'est pas ce que Dieu demande. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Mais nous, on dit, il faut les aimer. Non, on les aime et on dit, maintenant tu bosses. Et nous devons comprendre cela. Et nous devons comprendre ça, cette fausse spiritualité. Et c'est le problème de l'éducation. Nous empêchons. Et il faut que les jeunes, les gens de la vie reapprennent le sens de l'effort. Les gens n'ont plus le sens de l'effort, ils n'arrivent plus à faire des efforts. C'est une société aseptisée qui a détruit la capacité de résistance de beaucoup. Et c'est pour cette raison que les gens du tiers-monde vont nous envahir, parce qu'eux ont une vitalité que notre génération n'a plus. Je vous en parle, je suis missionnaire, je peux vous garantir qu'il y a un sacré décalage entre les missionnaires de maintenant et d'avant. Maintenant, 15 jours en Afrique, ils sont par terre, raides. Supporte plus aucun microbe. Une fragilisation. Et c'est la même chose dans la spiritualité. Il y a à développer. Alors, aimer notre prochain ne veut pas dire l'empêcher de faire ses propres expériences, l'empêcher de faire le travail à sa place. Alors, on arrive à ceci que je voulais dire. Savez-vous que Dieu se sert de ce qui est faible? Ésaïe dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Vous allez me dire, nous vivons une société de punch. C'est à qui a le punch, qui a la frite, qui a les meilleurs décibels, qui a boum, 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 boum. C'est-à-dire, j'ai appris une leçon. Dieu se sert de ce qui est faible. Et je vais aller plus loin. Dieu va se permettre de t'affaiblir. Nous, on pense que plus on a le punch, plus on est fort, plus on est dans la main de Dieu. C'est faux! Parce que plus tu es fort, plus tu crées des problèmes autour de toi. Et vous remarquerez que jamais qu'au maintenant, l'Église de Jésus-Christ a eu autant de moyens, et jamais qu'au maintenant, il y a eu autant de problèmes et autant de divisions. Trop fort! Les églises sont trop fortes, les chrétiens sont trop forts, les pasteurs sont trop forts, tout le monde est trop fort. On a besoin d'un bon coup sur la nuque. Alors, je vais y aller jusqu'au bout. Dieu se sert, regardez voir ce que dit Dieu. Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Regardez dans 1 Corinthiens 1, 19, Paul dit encore, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Quand vous regardez l'apôtre Paul qui n'avait aucune instruction, voilà que Dieu l'envoie chez les Juifs. Et que vous avez un homme comme Paul, instruit au pied de Gamaliel, c'était le meilleur ministère que les Juifs avaient besoin, et bien Paul l'envoie chez les... Dieu l'envoie chez les païens. Et j'aimerais dire que quand tu viens à Dieu, Dieu va se permettre, excuse-moi, mais il va se permettre de te plumer. Et il va se permettre de t'user, nous allons le voir, et ça, on ne le comprenons pas, nous disons, mais Dieu m'a abandonné, mais comment Dieu m'a rejeté? Mais non! Tu commences justement à devenir intéressant pour Dieu. Alors, Dieu se sert de ce qui est faible. Alors je continue. Dieu se sert de ceux qui ont échangé leur force contre la sienne. Ésaïe 40 dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Le mot renouveler veut dire exactement échanger. Échanger les forces. Dans 2 Corinthiens 12, Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qui m'ont été données, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et que répond le Seigneur? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors, maintenant, vous pouvez comprendre ce que dit Paul quand il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions. » Il n'a pas dit que c'était une malédiction, il n'avait pas dit que c'était un manque de foi. Il dit « Je me plais dans ces choses, dans les angoisses pour Christ, en effet, dans les persécutions. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez réaliser que Paul avait un démon? Elle dit, mais il blasphème, non? Paul avait un démon sur sa vie. Le super Paul, ministre apostolique par excellence, qui a planté je ne sais pas combien d'églises, qui a bossé, excusez-moi du terme, comme personne d'autre, et qui s'est retrouvé à la fin tout seul, parce que tous l'ont lâché à la fin de sa vie. Eh bien, ce Paul-là avait un démon. On aurait dit, humainement parlant, il avait besoin d'une délivrance. C'est ça. Et il la demande, la délivrance. Trois fois, il a supplié le Seigneur, éloigne-le. Cet ange de Satan, c'était un ange de Satan. Pas maladie, cherchez les raisons. La Bible est claire, un ange de Satan. C'est-à-dire un mauvais esprit. Et il dit, trois fois, j'ai supplié le Seigneur. Le Seigneur a dit, non. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. En un mot, le bouillant Paul avait besoin d'être cassé. La vitalité de Paul avait besoin d'être usée. Constamment, constamment, constamment. Il avait besoin d'être constamment usé, parce que pendant qu'il était usé par la contrariété, par l'opposition, la persécution inlassable de cet esprit qui utilisait parfois probablement aussi les hommes, il y avait au fond de lui un échange qui se faisait. Sa vitalité humaine, dans la souffrance, dans le brisement, était remplacée, sans qu'il s'en rende compte, par la puissance même de Dieu. Alors, il dira, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et dans votre vie, et je le crois de tout mon cœur, dans nos églises, nous sommes beaucoup trop costauds. Nous sommes beaucoup trop forts. C'est pour ça qu'on se marche dessus les uns les autres. Principe complémentaire de cela, Dieu échange sa force avec ceux qui s'attendent à lui, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent ou échangent leur force. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es dans la souffrance, quand Dieu te répond, liberté, guérison, délivrance, alléluia, tout le monde en veut, moi aussi, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si ce n'est pas une discipline, mais que c'est une épreuve, une formation, une pédagogie divine, alors il va falloir que tu apprennes ce qu'on appelle à persévérer dans l'épreuve, à endurer. Et pendant que tu endures, tu es un peu comme dans cette cocotte minute qui est sur le feu et qui chauffe, et ça chauffe. Et pendant que tu chauffes dans l'épreuve, sans que tu t'en rendes compte, eh bien, il y a un échange dans la fournaise de ta force qui est remplacée par la force de Dieu. Pendant l'épreuve, dans l'épreuve, dans la persistance au problème, c'est la fournaise de l'affliction. Quand nous passons par le feu de l'affliction et de la tribulation, il se passe quelque chose en nous, conséquence normale et inéluctable du fait que nous passons par le feu. Nous connaissons des changements en nous-mêmes, nos motivations sont purifiées, notre désir de pécher est bien souvent incinéré. Comme a pu l'écrire l'apôtre Paul, celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché. Quand vous espérez en Dieu, c'est-à-dire que vous attendez à lui, Dieu allume le feu des épreuves, des tentations, et votre vie commence à chauffer, ce qui amène deux conséquences. Les scories du péché et de l'égoïsme sont brûlées. La puissance de Dieu commence à agir en vous et par vous, avec des résultats surnaturels enthousiasmants. En un mot, au travers du feu de l'épreuve et de ta persistance à endurer cette épreuve, Dieu enfante au travers de toi une onction qu'aucune convention ne pourra jamais inscrire en toi. Ça va, vous êtes encore là, il ne va plus organiser de convention. Si, amen. Il y a quelque chose que seul le travail, la souffrance peut faire en vous et peut faire en moi. Alors, il y aurait tellement de choses à dire, mais ceci, le vrai témoignage fort, ce n'est pas la réponse de Dieu à notre attente parfois, mais écoutez bien ça. Le vrai témoignage que Dieu attend de vous et de moi, ce n'est pas la réponse de Dieu à notre attente, parce que Dieu m'a répondu, c'est pas ça, mais notre persistance à continuer quand Dieu ne répond pas. Je peux dire ça encore une fois? La vraie foi, c'est pas d'avoir la réponse de Dieu dans ma vie. La vraie foi, c'est de continuer quand Dieu ne répond pas. C'est ça, la vraie maturité chrétienne. L'espérance désespère et le désespoir espère toujours. La crainte de Dieu, donc, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage et achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Et je dirais encore, je pense que c'est important de réaliser que nous devons le chercher, lui. Nous devons le voir, lui. Nous devons le connaître, lui. Au lieu de chercher les bénédictions, ces plus grandes bénédictions peuvent devenir trompeuses et devenir un piège. Mais nous devons le connaître, lui.
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Le connaître lui, et non pas ce qu'il donne d'abord. Parce qu'il ne pourra rien te donner, mais ça n'a plus aucune raison d'être si tu le connais lui. Alors, je dirais, acceptons de le chercher lui, le connaître lui par un chemin que Dieu dirige, car ce qui restera, c'est cette nature agapée, cette nature d'amour qu'il aura pu mettre en nous dans une relation profonde. Détourner nos yeux de nous-mêmes, hein, en réalisant que tout est accompli, comme je l'ai dit ce matin, que cet après-midi, être dans le repos face à nos échecs conscients, demeurer en lui par la foi, et je terminerai en disant, mendez au Seigneur, mendez vraiment au Seigneur, d'arrêter, je veux dire quelque chose de terrible, mais d'arrêter de raisonner dans cette foi évangélique qu'on est en train de nous montrer dans toutes les statistiques de la super église, les super bâtiments, les super projets, les super visions, les super trucs. Je pense fondamentalement que c'est faux. Dieu ne veut pas que tu aies des super projets. Dieu ne veut pas que tu aies une super vision. Dieu veut que tu aies une super révélation de ce qu'il est lui. Alors c'est lui qui va le faire, c'est pas toi qui va le faire pour lui, parce que chaque fois que tu feras quelque chose pour lui, c'est touché par le péché. Mais si tu le connais lui, si tu te perds en lui, si ton butin, ta vision, tes objectifs, c'est pas le boulot que tu fais pour lui, c'est pas la grande église et la super église, mais si le butin c'est lui et non pas ce que tu fais pour lui, si c'est lui ton butin, si c'est lui ta raison de vivre, si c'est lui ta vie, à partir de ce moment-là, il fera comme il veut. Grande église, petite église, ça n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est que toi, tu le connais celui et que tu l'aimes, lui. Frères et sœurs, vous savez, moi j'ai prêché pendant des années, hein, la vision, Jung et Shaw, tous ces trucs-là. Je crois que c'est juste en partie, hein, pas. Je crois que c'est juste en partie. Mais le jour où j'ai vu qu'à cause des visions, il y avait énormément de divisions. Quand j'ai vu les rivalités, comment récupérer les chrétiens les uns des autres, que quand on disait qu'il y a des multitudes d'églises qui s'ouvrent, en réalité c'est des églises qui se divisent, et on pioche dans le vivier des autres. Quand on voit parfois l'incapacité de bien des serviteurs de Dieu de travailler ensemble par l'amour pour la gloire de Dieu, mais chacun créant son empire évangélique. Je ne dis pas tout le monde. Vous avez les meilleurs pasteurs, vous. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas partout la même chose. Mais je ne dis pas, ce n'est pas du tout une condamnation. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'on a été formés comme ça. On nous a dit, il faut avoir une vision. Il faut gagner des âmes. Il faut avoir tant. Et puis dans 6 mois, tant. Et puis dans 6 mois, 100 encore. Et puis ensuite, c'est l'église. Il y a encore plus grand. Il y a encore un nouveau bâtiment. Et puis une église athée. Et puis une mission. Et puis. Moi, je dis maintenant, ça suffit. Là, il me dit, ouais, mais je cause. Peut-être je peux causer parce que c'est tout ça, je l'ai fait. Toutes les bêtises qu'il a fallu faire, je les ai faites. Œuvre missionnaire, centaines d'églises, plusieurs écoles bibliques en Afrique, projet agricole, école de brousse, une radio chrétienne, fonctionne 24 heures, c'est pas mirifique, mais ça marche. On a ouvert des églises annexes, on a fait, si jamais on a fait des moineries, on en a fait. Je vais vous dire aujourd'hui, et ça je le dis devant Dieu, aujourd'hui pour moi ce qui compte, c'est pas une église où il y a plein de chrétiens avec plein de problèmes, qui se tapent dessus, qui sont plein d'amertume, plein de rancune, incapables de travailler, incapables de se consacrer, incapables, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour ça que Jésus a donné sa vie, pour voir les églises se déchirer comme ça? Est-ce que c'est pour ça que le sang de Jésus a coulé? Est-ce que c'est ça, mettre plein la vue au monde? Si le monde savait ce qui se passe dans nos églises, eh bien, il ne viendrait jamais. Alors, je dis, il faut arrêter. Il faut arrêter les visions. Et il faut recevoir la révélation. Elle dit, Seigneur, moi, je veux te connaître, toi. je veux arrêter de travailler pour une église, je veux arrêter de travailler pour avoir du succès, je veux arrêter de travailler, être connu, je veux arrêter pour faire, je veux plus ça, c'est faux, c'est de l'hérésie, c'est des destructeurs. Seigneur, de connaître toi, la communion à tes souffrances et la puissance de ta résurrection. Et alors ça va couler. Alors il y aura des miracles. Alors il y aura des prodiges. Mais il y aura des miracles qui correspondent à des réalités spirituelles sûres. Il n'y aura pas des miracles qui mettent plein la vue aux gens et par derrière, eh bien, vous avez n'importe quoi. Vous savez, moi, des fois, maintenant, je dis non, ça suffit. Vu dans des conventions, j'ai vu dans des rencontres, le super orchestre, le super groupe, les gars, ils nous en mettaient plein la vue dans la louange. Quand c'était fini, ils fumaient leur clope dans le coin du côté. Fumaient leur cigarette. Mais c'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça? Mais on dit, c'est les dons de la grâce. Mais les dons de la grâce s'expriment par le canal de la sanctification. Mais on est, mais où aujourd'hui, maintenant? On est où aujourd'hui? Mais est-ce que c'est ça Jésus? Est-ce que c'est ça la beauté de Jésus? Je veux dire quelque chose. Pas du tout de latin. Mais je dis aujourd'hui, nous avons une musicologie qui est technologiquement la perfection. Mais ce n'est plus la voix qui sort de la bouche. Donc, je ne parle pas pour d'ici. Vous avez maintenant, avec la qualité des micros, des trucs, vous avez une musique technologique. Ça veut dire qu'on baigne dans une atmosphère qui ne correspond même plus à la réalité des voix qui sortent des gorges des gens. Et ça veut dire qu'on va vous parler de l'onction. Il y a une onction de la technologie, il y a une onction musicale, il y a une onction des sons. Moi, j'étais, vous savez, j'étais sur l'Angéla, je m'occupais des foyers socio-éducatifs. Il y a l'onction de l'acteur de théâtre, moi j'ai vu. Il y a l'onction du cinéaste, il y a l'onction. Vous rayonnez, vous avez un magnétisme. Il y a l'onction de la musique. Nous devons faire attention. Nous, ce qu'on voulons, ce n'est pas l'onction d'une bonne technologie. Nous, ce que nous voulons, c'est l'onction d'un cœur qui connaît Jésus. Qui connaît Jésus. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la simplicité de vos, la louange ici. Je voudrais vous encourager à continuer comme ça. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas partout pareil. Alors, j'ai dit, mon frère, ma sœur, le connaître lui, accepter lui, accepter de vivre en lui, accepter de le chercher lui, prendre du temps avec lui, prendre du temps devant lui, prendre du temps en lui, prendre du temps, 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 tout seul avec ton Dieu. Il n'y a que ça qui te fera grandir. Amen. Prions un instant, madame.
Radio Certitude.
Nous venons d'écouter le pasteur Pierre Truchel nous parler de la sanctification.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.